Aujourd'hui, je vous invite à déambuler dans une exposition qui m'a littéralement fascinée. J'y suis allée à 7 reprises en l'espace de 3 mois, entre le 12 octobre 2022 et le 23 janvier 2023. Bref, j'ai adoré. Cette exposition, écrite, pourrions-nous dire, par Laurence Bertrand d'Orléac, et intitulée « Les choses », fut accueillie par la critique de façon diverse. Certains, comme Judith Benhamou des Échos, en parlent avec ferveur. Elle intitule son article « La grandiose leçon de choses du Louvre » et poursuit avec enthousiasme en ces mots. Une giga-exposition, une programmation d'une ambition extrême, une démonstration de force de l'institution. Son contenu est époustouflant. Et puis, il y a ceux qui ont la critique acerbe. Il y a trop de tout pour un propos assez peu convaincant, titre le journaliste et collectionneur suisse Étienne Dumont. Enfin, il y a ceux qui ont un avis mitigé, comme Lucille Comeau de Radio France. C'est une énorme exposition, dit-elle, et cette énormité est à la fois une qualité et un défaut. Je ne vais pas vous mentir, cette exposition est énorme. Elle réunit en 15 sections 170 œuvres provenant de 70 musées. Le parcours est dense, l'offre est riche, les œuvres de qualité, des chefs-d'œuvre de la préhistoire à nos jours. Cette exposition fera-t-elle date dans l'histoire, à l'instar de celle organisée par Charles Sterling en 1952 à l'Orangerie des Tuileries, intitulée « La nature morte de l'Antiquité à nos jours » Nous l'ignorons. Ce qui est sûr, c'est que je vous propose aujourd'hui de partager mon enthousiasme. Comme le recommande la journaliste Lucille Comeau, que je viens d'évoquer, je vais choisir un angle d'approche pour vous présenter cette exposition. Il sera différent du sien et tentera de donner des éléments de réponse à une question omniprésente dans l'étude des œuvres. Comment se répondent les artistes à travers les siècles? Cette déambulation nous conduira donc à voyager dans le temps et dans l'espace. Elle sera l'occasion de découvrir comment Henri Matisse répond avec force et puissance au peintre anversois du XVIIe siècle, Jan Davids de Hem. Et puis, pour la première fois depuis le début de nos rencontres, nous aborderons un nouveau médium avec l'œuvre vidéo du cinéaste contemporain Jan Zwankmeyer qui dialogue avec les portraits du XVIe siècle du célèbre Giuseppe Arcimboldo. Partons flâner au Louvre dans l'exposition Les choses. Une exposition qui n'est autre qu'un agencement de choses, comme se plaît à la définir Laurence Bertrand d'Orléac. Un agencement qui est le fruit de 7 ans de réflexion et de recherche, ajoute-t-elle. Partons flâner au Louvre dans l'exposition Les choses. Car les choses et l'être ont un grand dialogue, comme l'écrit Victor Hugo dans le poème des Contemplations intitulé « Ce que dit la bouche d'ombre ». Je ne résiste pas à vous en lire quelques vers. Tout parle, l'air qui passe et l'alcyon qui vogue. Le brin d'herbe, la fleur, le germe, l'élément. T'imaginais-tu donc l'univers autrement? Tout parle. Et maintenant, homme, sais-tu pourquoi tout parle? Écoute bien, c'est que vent, onde, flamme, arbre, roseau, rocher, tout vit, tout est plein d'âme. Les artistes savent nous faire partager l'âme des choses. Suivons-les. Nous nous dirigeons vers les salles souterraines de l'aile Sully. Dans la rotonde, nous sommes accueillis par une explosion colorée au ralenti d'objets de consommation courante projetés sur 2 écrans géants. Il s'agit du même extrait du film d'Antonioni, Zabriskie Point. Le ton est donné. L'art contemporain sera omniprésent dans l'exposition. Nous pénétrons ensuite dans la salle introductive. La section s'intitule « Ce qui reste ». Là, un estampage des haches de Gravinis, 3500 avant notre ère, entre en dialogue avec une œuvre contemporaine d'Hubert Duprat, intitulée Volos. Un extrait du film d'Andrei Tarkovsky, Stalker, entre en résonance avec une véritable icône du Louvre, la Madeleine à la veilleuse de Georges de Latour. Une Madeleine qui nous invite bien sûr à méditer sur la condition humaine, mais aussi sur notre rapport aux choses. D'autres œuvres se répondent encore, mais nous avons rendez-vous avec Matisse et David Stehem. Nous allons donc devoir nous hâter et traverser les sections suivantes. Celle de l'art des choses ordinaires qui nous fait voyager dans l'Antiquité. Celle des objets de croyance qui nous entraîne aux quatre coins du monde. Celle de l'émancipation. Pour nous arrêter enfin un moment dans la section intitulée « Accumulation, échange, marché, pillage ». Nous entrons dans un monde de richesse, d'opulence. Nous traversons des scènes de marché anversoises du XVIe siècle et nous sommes maintenant confrontés à une œuvre de format monumental. Il s'agit d'une huile sur toile de 2 mètres de long sur 1,50 m de haut. Une huile sur toile du peintre Jan David Stehem, installée à Anvers entre 1636 et 1661. Cette œuvre, datée de 1640, fut acquise par Louis XIV dès 1662 et exposée au Louvre dès qu'il devint musée en 1793. Elle fait partie des œuvres les plus importantes de la peinture flamande. Son titre est très descriptif. Fruits et riche vaisselle sur une table, entre parenthèses, un dessert. Il s'agit d'une nature morte, si l'on utilise la terminologie française pour la définir. Terminologie élaborée, formulée par Félibien en 1667, lorsqu'il instaure la hiérarchie des genres à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Terminologie contre laquelle Laurence Bertrand d'Orléac s'élève, s'insurge, dans son ouvrage « Pour en finir avec la nature morte » et dans cette exposition qu'elle intitule à dessein « Les choses ». L'œuvre que nous avons devant nous est une « still leaven », une vie immobile, si l'on utilise la terminologie apparue aux Pays-Bas au XVIIe siècle pour qualifier pièces de fleurs, de fruits et de poissons représentées en peinture. Une terminologie qui sera reprise par les Anglo-Saxons et qui conserve la possibilité d'un après, comme le souligne l'historienne de l'art Dominique de Fonréau dans le chausier du catalogue de l'exposition. Un fond sombre met en lumière une table servie. Une table servie qui occupe l'essentiel de la composition. Je vous propose de vous laisser entraîner par nos sens pour découvrir ce monde qui s'offre à nous. La perfection du rendu des matières nous invite à la délectation. Au coin, en bas à gauche, un luth vient prendre appui sur une table couverte d'une lourde étoffe de velours vert émeraude, bordée d'un galon à franges d'or. Nous voyons le luth de profil. Ses cordes et sa table d'harmonie sont plongées dans l'ombre, tournées vers la table, invisibles. Ce luth est silencieux dans l'instant où nous sommes. Mais tout comme le spectateur du XVIIe siècle, nous pouvons nous plaire à imaginer les notes d'une mélodie qu'il aurait jouée quelques instants auparavant. Nous pouvons aussi caresser les facettes de sa caisse de résonance, elle-même effleurée par la lumière. Une brillance, un éclat, un reflet vient nous dire à quel point le bois fut verni avec soin. Une brillance, un éclat, un reflet vient nous dire à quel point ce luth est lisse et doux au toucher. Taillé dans un bois dur, peut-être dans de l'if, de l'érable, de l'ébène, peut-être dans un arbre fruitier, ce luth arbore des teintes d'un brun chaud, roux par endroits. Des teintes qui viennent répondre à certains fruits disposés sur la table. Cette table, couverte d'une lourde étoffe de velours vert émeraude, bordée d'un galon à franges d'or. J'ai envie de reprendre ici les mots de Dominique de Fonréau pour définir une vie immobile. Rien ne bouge, et pour cause. Rien ne parle, ni ne crie, ni se lamente. Posons la main au point de contact du luth et de la table, laissons-la glisser vers nous pour caresser le coin de cette table, puis s'en arrête devant nous. Soudain, notre geste est suspendu. Notre main entre en contact avec une nouvelle matière, du lin sans doute. La nappe a dû être placée à la hâte. À gauche, elle dessine un magnifique plissé sur lequel joue la lumière. Un peu plus à droite, elle a été disposée avec plus de soin, à plat, sur la lourde étoffe de velours. Sur son tombant, juste devant nous, au premier plan, la nappe nous livre les traces perpendiculaires de ses plis, figurées avec minutie et grand réalisme. Elle sort de l'armoire. Le contraste des couleurs et des valeurs est frappant. Cette nappe donne toute sa force au clair-obscur du tableau. Le contraste des matières est là aussi, sous nos doigts. Au soyeux, au satiné du velours, succède la légèreté, la souplesse, la fraîcheur de la toile blanche. Si nous poursuivons notre geste plus à droite encore, longeant toujours l'arête de cette table massive qui se poursuit presque jusqu'au bord droit du tableau, nous quittons la toile de lin pour retrouver un bref instant le contact avec le velouté de la lourde étoffe et pour finalement saisir le bois massif de la table couleur chêne clair. En poursuivant ce geste, il nous faudra pourtant prendre garde à ne pas renverser ce couteau, posé là tout au bord, qui semble prêt à basculer à tout instant. Il faudra aussi prendre garde à ne pas renverser ce plat en métal, d'une finesse extrême, qui accueille une brioche entamée, des quartiers de citron, des cerises, un verre en cristal, plus précisément un romer, un verre rhénan à socle ouvragé. Un romeur d'où se déroule en cascade, en spirale, la peau d'un autre citron. Là encore, les matières sont figurées à la perfection. Le moelleux de la brioche, l'acide du citron, l'aigre doux des cerises aux teintes jaunes et rouges, proches des cerises bigarreaux d'aujourd'hui. Le duveteux de l'intérieur de la peau du citron, qui contraste avec sa rugosité extérieure. La transparence du verre et du liquide qu'il contient. La perfection s'applique également au rendu des reflets de ces objets sur cette feuille de métal aux accents dorés. Rien ne bouge et pour cause, rien ne parle ni ne crie, ni se lamente. La table semble légèrement vue de haut. Cette perspective cavalière nous offre à voir une profusion de plats, de fruits et de desserts. Une impression d'abondance, mais aussi de désordre, règne. Où porter le regard ? Sur cette tourte éventrée au centre où se mêlent beige, châtaignes et citrons dans un camailleux de couleur brune, camailleux animé çà et là par les éclats blancs de la lumière et les jaunes des rondelles de citron. Où porter le regard? Sur cette coupe au pied d'argent, derrière laquelle viennent se blottir en contrebas quelques pêches? Ou encore plus à droite, sur cette aiguière à la panse ovoïde et facettée, montée sur or, semble-t-il? Des reflets couleur ciel viennent animer la surface de sa nacre. Ses iridescences conduisent nos yeux sur son anse ornée de volutes et taillée en sirène. D'autres visages viennent encore ponctuer la monture de cet objet, d'un luxe inouï. Toujours plus à droite, toujours derrière la tourte éventrée que nous avons évoquée, le peintre réalise un nouveau tour de force dans le rendu de la transparence de ce haut verre à coupe polylobée, au pied très travaillé, en cristal, un pied en forme de cœur, orné lui aussi de volutes. La base de ce verre est partiellement masquée par une feuille recevant des figues dans toute leur matérialité. Toujours plus à droite, nos yeux se posent maintenant sur une coupe à gaudron, en métal doré, qui s'élève dans toute sa verticalité en une extraordinaire spirale ascensionnelle. En son sommet, elle accueille un oiseau sculpté. Ses cannelures renvoient la lumière en couleurs chatoyantes. sur ces bosselages, qui agissent comme autant de miroirs convexes, viennent se dessiner les reflets microscopiques des fenêtres. Ils semblent se multiplier à l'infini. Nous pouvons admirer le raffinement extrême de la technique du repoussé, la ductilité du métal travaillée elle aussi à la perfection, l'éclat resplendissant de cet objet d'apparat, de ce récipient à boire. Ce chef-d'œuvre d'orfèvrerie, animé par les ombres et les lumières, semble être un objet doué de vie. Nous pourrions encore évoquer ce vaste plat rond, légèrement creux, de porcelaine chinoise, bleue et blanche, où les fruits sont figurés à foison, raisins blancs et noirs, noix, figues ouvertes et fermées, fruits exotiques et j'en oublie. Posé sur une corbeille en osier dont on ne peut voir le contenu, l'équilibre du plat de porcelaine chinoise semble instable. Ce plat souligne la diagonale de la composition et les fruits qu'il accueille apportent beaucoup de lumière. Grâce à une touche fine et précise, Jan David Stehem nous restitue, dans une composition magistrale unifiée par le clair-obscur, chaque texture, chaque reflet. Il joue avec les glacis pour nous rendre les transparences. Nous sommes dans une logique de trompe-l'œil. Le temps s'est arrêté, nous admirons inlassablement les détails si finement travaillés de tous ces mets et plats disposés ici. Les effets éphémères de la lumière figés sur cette table servie. Une table servie qui témoigne de la richesse du maître de maison, de son goût pour le raffinement, mais aussi du talent des artisans, des orfèvres. Rien ne bouge et pour cause. Rien ne parle, ni ne crie, ni se lamente. Prenons un peu de recul. Cette table servie est véritablement mise en scène par Jan David Stehem puisque des rideaux pourpres viennent encadrer la représentation avec théâtralité. Ces rideaux viennent aussi dévoiler l'arrière-plan. Quelqu'un aurait-il actionné le cordon à pompons qui pend au-dessus du bord droit de la table pour nous donner à voir à droite de l'œuvre cet édicule, ce promontoire fait de pierres taillées, souligné d'une corniche, sur lequel viennent s'amonceler une map monde et une pile de livres en désordre. Rien ne bouge, et pour cause, rien ne parle, ni ne crie, ni se lamente. Mon ami Michel, qui m'a accompagné lors d'une de mes déambulations, m'interroge.
Qu'est-ce que nous apprend le tableau sur l'état économique des Pays-Bas, qui, depuis 1610, sont en plein démarrage économique avec la bourse d'Amsterdam, où sont cotées les fameuses tulipes? Est-ce qu'on retrouve ça dans les tableaux?
Oui, Michel, ces tableaux parlent, ces tableaux nous parlent. Ces choses nous parlent. Ces choses nous disent l'opulence, la richesse des Pays-Bas à cette époque. Cette map-monde, ces fruits exotiques, cette porcelaine chinoise nous disent l'ouverture du pays sur le monde. La prospérité de la situation économique conduit d'ailleurs à l'enrichissement de la bourgeoisie, des marchands, des navigateurs, des armateurs, qui deviennent autant de nouveaux commanditaires.
Quelle est la conséquence de cette montée de la richesse sur les peintres, sur la demande de tableaux?
Eh bien, l'enrichissement de ces commanditaires pousse la demande, mais aussi l'exigence de qualité. La concurrence se fait vive chez les peintres et conduit à leur spécialisation. Certains peignent des paysages, d'autres des portraits, d'autres encore des still living, des natures mortes, des choses. Les artistes produisent bien sûr des sujets qui plaisent à leur nouvelle clientèle. Et justement, ces tables servies connaissent un grand succès, sans doute pour leur aspect décoratif, mais aussi très certainement parce qu'elles montrent, de façon quelque peu ostentatoire, on peut le dire, la richesse et le goût du commanditaire capable de réunir une telle collection d'objets précieux. Le peintre s'attelle d'ailleurs à les figurer avec la plus grande précision, nous l'avons vu. Le temps consacré à l'exécution, la virtuosité de l'artiste à restituer les matières, participent d'ailleurs de la valeur de l'œuvre. L'œuvre doit séduire le regard. Ce qui n'est pas étonnant dans la Hollande du XVIIe siècle, où la culture visuelle était au centre de la vie sociale, comme le démontre Svetlana Alpers dans son ouvrage intitulé « L'art de dépeindre, la peinture hollandaise du XVIIe siècle ». N'oublions pas que nous sommes aussi dans une époque où se développent les cabinets de curiosité, une époque où l'on cherche à différencier, qualifier, désigner les choses. Le soin que mettent les peintres dans la représentation de ces choses participe donc très certainement, également, de cet élan presque scientifique. La présence des livres et de la map-monde en sont d'ailleurs un marqueur clair. Mais à ce stade, Michel, je voudrais cependant ajouter encore un point. On ne peut pas réduire ces still leaven, et plus particulièrement ces tables servies, à des œuvres purement décoratives, à des témoins du développement scientifique de l'époque ou encore de la richesse du pays et de leurs commanditaires. En effet, certains détails témoignent que nous ne sommes pas dans une exacte représentation de la réalité. Ces figues et ces cerises, par exemple, peuvent nous intriguer. Elles sont réunies ici sur la même coupe. Pourtant, elles n'arrivent pas à maturité en même temps. L'artiste n'a donc pas voulu figurer seulement la réalité d'un instant T. Il a sans doute intégré dans son œuvre un sens religieux caché. Le spectateur du XVIIe siècle savait d'ailleurs parfaitement le décoder, dirions-nous aujourd'hui. Je vous livre rapidement quelques clés de lecture peut-être. Les cerises évoqueraient les fruits du paradis. Les pommes et les pêches, le fruit défendu. Les raisins, la rédemption. Et l'intérieur de la noix, la croix du Christ. La tourte entamée, quant à elle, symboliserait la bonne chère. Et le luth exprimerait les plaisirs des sens. Tout près de ce luth, d'ailleurs, à y regarder encore, une montre gousset est posée là, nonchalamment, sur le bord de la table. Elle vient nous rappeler de garder mesure et tempérance face à la finitude de la vie et au caractère éphémère des plaisirs terrestres. Décidément, Michel, ces choses ne sont vraiment pas silencieuses, elles ont une puissance expressive. Elles parlent, elles nous parlent. Mais nous nous sommes laissés absorber par cette œuvre alors que je vous avais promis une rencontre, un face-à-face. Il est temps d'y venir. Cette œuvre de Jan Davids de Hem a littéralement subjugué Matisse à la suite de Gustave Moreau. Matisse dit « C'est extrêmement compliqué. On dirait que c'est peint à la loupe. Il y a des choses dont le travail est poursuivi à l'infini. » Matisse s'en inspire une première fois dans sa jeunesse en 1893 avec une précision méticuleuse. L'œuvre est aujourd'hui conservée au musée Matisse à Nice. Puis en 1915, il copie sa propre copie dans une variation monumentale. L'œuvre est aujourd'hui conservée à New York, au Metropolitan Museum of Art, et nous avons la chance de la voir dans cette exposition. C'est le seul grand tableau de Matisse de cette année-là, 1915. Il culpabilise alors d'être maintenu dans le civil, tandis que nombre de ses amis sont sur le front. Par rapport à sa toile de 1893, il double l'échelle. Nous sommes ici devant une œuvre de 2,20 m de long sur 1,80 m de haut. C'est une transposition. Il modifie les motifs. Le verre en cristal très travaillé disparaît. Il figure le luth, mais vu de face et de côté. Le reflet de la caisse de résonance est toujours là, le chevillé toujours de profil. Mais maintenant, la table d'harmonie et les cordes s'offrent à notre regard. À la fin de sa vie, le peintre se souvient qu'il a voulu recommencer. Selon les méthodes de construction moderne, ce sont ces mots. Il reprend donc la magistrale composition en diagonale, les choses dans toute leur théâtralité, la nappe jetée nonchalamment sur l'étoffe verte, la tourte éventrée, les guerres, la coupe à gaudron surmontée de l'oiseau, l'amoncellement de fruits dans le plat de porcelaine chinoise, la map-monde, le cordon du rideau, l'ordre et le désordre. Pourtant, l'œuvre est tout autre. Il simplifie les formes, il géométrise. Il joue sur l'opposition des masses colorées et des volumes. Il éclaircit la composition, n'hésite pas à avoir recours à des couleurs vives et lumineuses. Nous ne sommes plus du tout dans le trompe-l'œil. Il cerne de noir les objets. Les reflets sur les gaudrons de la coupe élancée surmontée d'un oiseau se résument à des ovales noirs qui se répètent et se multiplient. Et en partie gauche, il ouvre la composition sur l'extérieur. Au fond sombre de l'œuvre de David Stehem, il substitue un ciel et le haut d'une rangée d'arbres qui fait son apparition au-dessus d'un mur dans des tons de bleu ciel et blanc. Clairement, il a à l'esprit le cubisme de Picasso ou de Juan Gris quand il compose cette œuvre. La présence simultanée de ces deux toiles est exceptionnelle. Ce pont dans l'histoire de l'art nous permet à nous spectateurs d'aller et de venir d'une œuvre à l'autre. Il nous invite à mieux les regarder, sans oublier que dans ces deux œuvres, toutes ces choses nous en disent long sur leur époque respective. Je vous propose maintenant de poursuivre notre visite pour rejoindre une autre section intitulée « Tout reclassé ». Nous quittons la nature morte pour rencontrer l'homme-chose à travers les siècles. Nous quittons le silence pour nous confronter au face-à-face de Giuseppe Arcimboldo et de Jan Svankmajer. Nous sommes maintenant dans une alcôve où se confrontent les œuvres de ces deux artistes. Dans un premier temps, notre attention se porte sur l'huile sur toile d'Arcimboldo. Un format portrait, 76 cm de haut sur 63 cm de large, intitulé « L'automne », daté de 1573, elle est habituellement conservée au musée du Louvre. Puisque le titre de la section « Tout reclassé » nous y engage, posons-nous la question. Suis-je devant une nature morte? Un portrait? Une nature morte anthropomorphe, un portrait allégorique ou encore une tête composée? Je vous laisserai trancher après la description. De loin, je vois un visage, le visage d'un homme de profil tourné vers la gauche, le visage d'un homme mûr, barbu. De près, je vois poser sur le haut d'un tonneau de vin éclaté, dont les douelles sont maintenues par un jonc souple, une accumulation de fruits et de légumes de saison, 25 peut-être, méticuleusement assemblés. Entrons dans le détail. Sur le buste tonneau, qui donne l'effet d'un corset, une carotte et un navet dessinent le cou du personnage. Un épi de blé figure la barbe, une grenade son menton, une bogue hérissée de piquants lui sert de bouche tandis que la châtaigne pointe comme une langue tirée. Sa joue est une pomme, son nez une poire, son œil une petite mûre doublée d'un petit champignon, son oreille un champignon également, une russule rouge pour être précise, de laquelle pend une figue trop mûre, fendue. Le front du personnage est ceint de grappes et de feuilles de raisin blancs et noirs. Le raisin tient une place prépondérante dans cette composition. Une citrouille lui sert de couvre-chef. Est-ce un monstre? Une chimère au visage rougeoyant, rubicon? Une représentation de Bacchus? Ce portrait se détache du fond sombre avec toutes ces couleurs automnales que l'on associe volontiers à l'époque des vendanges. Le traitement des fruits et des légumes est d'un grand réalisme. Une guirlande de fleurs peintes souligne le contour du tableau et vient participer au jeu des clairs obscurs. Là encore, nous avons une grande unité de composition, malgré la quantité des éléments réunis ici, qui sont hétérogènes, mais aussi cohérents. Roland Barthes dit d'un autre portrait d'Arcimboldo, de l'hiver notamment, « Ce sont les choses qui sont là en tant que choses. Voici la souche, voici le lierre. La tête est composée d'unités lexicographiques qui viennent d'un dictionnaire, mais ce dictionnaire est d'images. » J'aime cette idée du dictionnaire d'images. Ici, les choses servent. Les choses servent comme des mots. Elles servent à dessiner un portrait. L'homme devient un ensemble de choses comestibles, dégradables. Les frontières s'effacent entre portrait et nature morte, entre choses et humains. Le personnage est au sens propre la saison de ses fruits et de ses plantes. Il est un personnage généreux qui vous donne à regarder, à entendre, à sentir, à goûter, à vibrer, à voir, à manger. Je reprends ici les termes de Laurence Gillot. Pendant que nous nous perdons dans la contemplation du rendu précis des détails, de la délicate figuration des reflets sur les grains de raisin, de cet éclat de lumière ici qui vient faire ressortir le nez en poire de notre personnage, de la fusion chromatique des tonalités, pendant que nous nous perdons dans cette contemplation, nous ne pouvons échapper à une avalanche de sons étonnants, intrigants, parfois inquiétants. Mais avant de nous laisser happer par l'œuvre de l'artiste contemporain pragois Jan Zwankmeyer, nous échangeons encore un instant avec Michel, qui a justement deux petites questions sur la peinture que je viens de vous décrire, sur l'automne de Giuseppe Arcimboldo.
Qu'est-ce qui a pu pousser un peintre à faire cette représentation grotesque d'une tête d'homme? Est-ce que c'est vraiment son but de représenter une tête d'homme?
Tout d'abord, d'un point de vue de la forme, il semblerait que Arcimboldo ait eu l'occasion dans sa jeunesse de feuilleter les carnets de croquis de Léonard de Vinci, et donc il aurait pu s'inspirer de certains de ses dessins qu'on appelait alors des grotesques. Ces grotesques sont d'ailleurs un type de dessin qui existe depuis longtemps, puisque c'est une catégorie de peinture libre et cocasse inventée dans l'Antiquité, comme les définit Vasari vers 1550. Et donc les artistes se plaisaient à figurer les fruits de leur extravagante fantaisie ou les difformités monstrueuses de la nature. Comique et espièglerie s'invitaient dans ces formes hybrides, tantôt humaines, tantôt végétales, tantôt animales. Et vers la fin du XVe siècle, justement, ce qui est intéressant, c'est que ces grotesques sont d'autant plus dans l'esprit des artistes que les décors antiques de la Domus Aurea, c'est-à-dire du palais de l'empereur de Néron à Rome, enfoui sous les thermes de Trajan, viennent d'être redécouverts. Mais cependant, tu as raison, l'œuvre d'Arcimboldo ne peut pas être analysée seulement comme un portrait d'homme, mais comme une véritable métaphore, une allégorie de l'automne, et aussi comme une œuvre porteuse d'un sens politique, en lien avec son commanditaire, l'empereur Maximilien II. En effet, Michel, même si au premier abord le thème des saisons ne semble pas se prêter à des considérations d'ordre politique ou métaphysique, cette œuvre, comme de nombreux autres portraits de l'artiste, a un sens caché, je devrais même dire des sens cachés. Tout d'abord, cette profusion de légumes est bien évidemment une expression de prospérité de l'Empire, mais il y a plus. Ce cycle immuable des saisons qui se répète indéfiniment est sans doute une façon voilée de dire que le pouvoir de Maximilien II de Habsbourg est lui aussi éternel. Enfin, à cela s'ajoute l'objectif de la commande, qui est en lui-même un acte politique. Rappelons-nous, nous sommes en pleine période troublée par les agitations politiques et religieuses. Et c'est dans ce contexte que l'empereur catholique Maximilien II souhaite offrir cette œuvre au prince luthérien, l'électeur Auguste de Saxe, dans un but très précis. Il veut ici faire geste de médiation en vue d'une alliance entre les maisons chrétiennes contre les Turcs qui menacent l'Occident. Sur toutes ces considérations politiques, Michel, je te propose que nous partions cependant à la découverte de l'œuvre qui répond à ce portrait d'Arcimboldo, qui nous appelle de façon visuelle et sonore. Il s'agit maintenant de l'œuvre de Jan Zwankmeyer, intitulée « Les possibilités du dialogue » et qui date de 1982. Nous plongeons maintenant dans un extrait de 5 minutes du court-métrage d'animation. Grincement, crissement, frottement, craquement, raclement. Par la gauche de l'écran, entre un visage constitué de légumes. La technique de représentation est très proche de celle d'Arcimboldo. Seule nuance, il s'agit d'une sculpture. Une sculpture filmée en mouvement. Une sculpture qui avance telle une marionnette de la gauche vers la droite, en ouvrant et fermant la mâchoire. Cette idée du spectacle de marionnette est importante, car l'artiste lui-même, lorsqu'il parle de son travail, dit « J'aime dialoguer avec ma propre enfance, l'enfance est mon alter ego. » Cette sculpture, qui avance donc de la gauche vers la droite, sur l'écran, est constituée de fruits et légumes, d'aliments. Rentrons dans le détail. Navets et choux-fleurs construisent la base du cou. Ce cou est lui-même constitué de concombres et poireaux. L'oreille est un pain. La joue, une feuille de chou. Le nez, un citron. La nourriture est un des sujets de prédilection de Jan Zwankmeyer. Grincement, crissement, frottement, craquement, raclement. Le cinéaste zoome sur le personnage. Il apparaît en très gros plan à l'écran. Grincement, crissement, frottement, craquement, raclement. Soudain, il disparaît pour laisser place à un autre personnage qui entre cette fois par la droite de l'écran. Cette tête que nous découvrons également en très gros plan est constituée d'objets du quotidien, principalement des ustensiles de cuisine. Son œil vient se loger dans une cuillère, sa joue est un couvercle métallique bleu, son nez une louche, son oreille une écumoire, sa moustache un blaireau. Ses dents métalliques viennent se fixer sur deux cuillères disposées parallèlement, en biais, pour dessiner la mâchoire. La caméra recule. La coiffure du personnage est hérissée de fourchettes. Et il semble avancer comme sur des roulettes. Sur l'une d'entre elles, des ciseaux s'ouvrent et se ferment. Ils inquiètent. Le personnage poursuit sa course, sort de l'écran. Grincement, crissement, frottement, craquement, raclement. Soudain, les deux personnages sont face à face. Ils avancent l'un vers l'autre, ils actionnent leur mâchoire. L'homme au couvercle bleu avale en une bouchée l'homme légume. La tête victorieuse s'effondre à son tour, en un tas de choses, mêlant les légumes de l'un, les ustensiles de cuisine de l'autre. Tout se brouille dans un mouvement circulaire extrêmement rapide. Le concombre se met à s'éplucher. Les ciseaux s'attaquent avec une grande violence à la pomme. Ils la déchiquettent en une mixture informe. Très vite remplacé à l'écran par des carrés de sucre broyés par une tenaille. Le pain est à son tour écrasé par une passoire métallique qui se replie sur lui. Des œufs durs sont massacrés par des dés à coudre. Des clés viennent se planter dans un chou avec tellement de violence qu'elles finissent par le déchiqueter. Radis, pommes vertes, poulet, citron, carottes. Rien n'échappe à cette destruction massive opérée tour à tour par un maître de couturière. Des couvercles de casserole, un mètre pliable d'artisan. Et puis, le tas se reconstitue. Le personnage ustensile réapparaît. Il recrache les miettes de l'homme légume, qui lui aussi reprend forme. Ils se font face une fraction de seconde. Le personnage ustensile se retourne, repart. Un autre personnage apparaît, cette fois constitué de livres et matériel de bureau. Grincement, crissement, frottement, craquement, raclement. Vous imaginez la suite. Deux têtes humanoïdes se font de nouveau face. Un duel bruyant se produit. Il conduit une fois encore à la destruction. Le pattern se reproduit dans quelques variantes tout au long de la vidéo. Des objets inanimés viennent à la vie. Ils se livrent une guerre sans merci. Ils combattent, s'attaquent, se dévorent, s'avalent, se mélangent, se recrachent. Les objets ou légumes se répandent, épluchés, coupés, broyés, digérés, réduits en miettes. Grincement, crissement, frottement, craquement, raclement, destruction, dislocation, disparition. Jans Wankmeyer coupe et combine les images ensemble. Il anime ses sculptures constituées d'objets du quotidien, d'aliments. Il les filme. Il communique son idée visuellement. Il n'y a aucun dialogue. Il amplifie les effets de son. Grincement, crissement, frottement, craquement, raclement. Ça dérange. Destruction, dislocation, disparition. L'absurde et l'humour noir engendrent fascination et malaise. L'artiste nous fait entrer dans un monde surréaliste et cauchemardesque. Nous échangeons à nouveau avec Michel. Une question lui vient à l'esprit, la voici.
Quand Dieu a créé le monde, il a séparé le ciel de la terre, la lumière de la nuit, l'homme de la femme. Ce que montre Zwankmeyer, c'est la confusion. Plus rien n'est distinct, plus rien n'est organisé. Est-ce vraiment cela le sens de son œuvre ?
Oui, c'est exact. Confusion, désordre, cacophonie sont au rendez-vous dans cette œuvre. Notamment aux différents moments de destruction qui viennent rythmer la vidéo avec force et violence. Pour en trouver le sens, je te propose de revenir sur le titre de l'œuvre. Les possibilités du dialogue. En fait, ce court-métrage nous donne à voir les tentatives répétées et incessantes des hommes qui cherchent à communiquer et qui échouent. Thibaut Boulevin, qui a collaboré avec Laurence Bertrand d'Orléac sur l'élaboration de cette exposition, va plus loin. Je le cite. Au-delà du dérangement provoqué par l'entrée en guerre des objets ordinaires, il est encore question ici d'une misère de conditions. Comme ces têtes qui, à force de se dévorer, tombent en poussière. Nous nous affrontons, nous nous détruisons, et dans nos interactions avec les autres, nous nous uniformisons. Il insiste donc sur la portée politique et métaphysique de cette œuvre. Ici donc, Michel, Jans Wankmeyer fait parler les choses. Ce désordre et cette cacophonie de choses et d'objets est donc porteuse d'un message fort en lien avec notre condition humaine et notre incapacité à dialoguer entre nous. il est temps maintenant de conclure. J'espère que ces deux face-à-face que nous vous avons présentés aujourd'hui vous ont apporté quelques éléments de réponse à la question que nous nous posions au tout début de notre présentation, à savoir la façon dont dialoguent les œuvres au travers des siècles et à la façon dont les artistes se répondent. J'ai ici choisi quatre œuvres, deux face-à-face, deux vis-à-vis étourdissants d'intelligence, comme les qualifie la journaliste Judica El Labrador, que nous offrait à voir la vaste exposition qui abordait le vaste sujet, les choses. Ces quatre œuvres de Jan Davids de Hem, Henri Matisse, Giuseppe Archimboldo, Jan Zwankmeyer, vous ont donné à imaginer, je l'espère, un tout petit extrait de ce monde des choses dans lesquelles résident nos attachements, nos peurs, nos espoirs, nos caprices et nos folies, comme le dit avec justesse Dominique Bertrand d'Orléac. Ces choses donc que nous avons vues figurer ne sont pas mortes, ni silencieuses. Même lorsqu'elles sont immobiles, elles nous parlent, elles agissent sur nous, elles ont une existence. Et les artistes savent nous faire vivre avec intensité ce va-et-vient des choses à nous et de nous aux choses, au-delà des frontières temporelles et géographiques. Comme le souligne l'écrivain portugais Fernando Pessoa, oui, les choses n'ont pas de signification, elles ont une existence. Ce podcast est la trace orale de notre déambulation du mois de janvier 2023 avec l'association Un regard pour toi qui soutient les déficients visuels. Comme pour les précédents podcasts, j'en suis l'auteur et le réalisateur. Je choisis les œuvres décrites, les musiques. Je suis la plume, la voix, le monteur. Mais aujourd'hui, je tiens tout particulièrement à remercier mon ami Michel pour ses conseils, sa participation et la pertinence de ces questions. À très bientôt pour une nouvelle édition.